Tu dis que les vertueux fabriquent de l'enfer. Dans ce cas de figure, l'enfer est-il la prison du royaume des cieux ?
Bien, pour ceux qui prétendent que le paradis ou le royaume des cieux, c'est le monde des vertueux, à ce moment-là, effectivement, les vertueux ont construit une prison qui sera un enfer. Mais il n'est pas certain que le paradis soit le monde des vertueux.
Mmh.
C'est peut-être le monde d'un autre type de personnes. Et que peut-être les vertueux et leurs opposés sont dans le même lieu, après la mort. Et que cette séparation entre vertueux et...
Réprouvés,
criminels, elle marche peut-être pas là-haut. Mmh. Peut-être que c'est autre chose qui se passe. De toute façon, comme le problème et l'erreur commune, banale et pourtant profonde, de toutes les religions et même de toutes les vérités, c'est de transférer là-bas ce qu'il y a ici, et que probablement, c'est pas comme ça que ça se passe, eh bien, si c'est pas comme ça que ça se passe, qu'il n'y a pas de transfert possible, effectivement, là-bas, il n'y a pas cette séparation entre criminels et vertueux.
Mmh.
Et il se pourrait fort bien que les criminels et les vertueux se retrouvent à cohabiter ensemble,
mmh,
dans un même lieu.
Alors, toujours à propos des vertueux, entre guillemets, tu sembles dire que ceux-ci, donc les vertueux, sont forcément collectivistes, puisqu'ils châtient la liberté d'autrui. Puisque la liberté d'autrui, qui ne respecte pas les règles générales, les offense et constitue pour eux un crime. Donc les vertueux sont-ils forcément collectivistes ?
Je pense que oui, les vertueux sont nécessairement collectivistes parce qu'ils partent du principe qu'une vérité, c'est une vérité qui est éternelle, et pas seulement éternelle, mais qui est vraie partout, pour tous et pour toujours. Donc elle est obligatoirement collectiviste. D'ailleurs, généralement, le crime, même le crime basique, c'est de vouloir accomplir sa volonté particulière. Hein. Même un criminel qui est vraiment un criminel, hein, qui va voler, qui va tuer, finalement, il accomplit sa volonté particulière, hein, effectivement. Donc, les vertueux n'ont pas toujours tort. Hein.
Mmh. Qu'est-ce que tu entends par vertueux, rapidement ?
Les vertueux, c'est ceux qui sont reconnus comme des gens honnêtes, comme dignes de confiance, comme ceux qui iront au monde des bienheureux, des Champs-Élysées, des Nirvana.
Pourquoi ? Parce qu'ils ont accompli la justice ? Parce qu'ils ont aimé leurs prochains ?
Parce qu'ils ont obéi aux vérités éternelles, qui sont bonnes pour tous, partout et pour toujours, qui sont collectivistes, et qui construisent un monde organisé, rationnel, sécurisé, en bonne santé, qui fait pas du mal à son prochain, parce que c'est un monde qui obéit à une vérité qui est la même pour tous, partout et pour toujours, collectiviste. Donc, et c'est vrai que d'un point de vue superficiel, ça marche. Hein. Si un système n'obéit pas à une vérité qui est vraie pour tout le système, il s'écroule.
Oui.
Hein. Alors le problème, c'est est-ce que l'homme est un système ?
Oui, est-ce que l'homme peut vivre hors d'un système, ici-bas ? Alors pareillement, tu mets dans le même sac les religieux et les mystiques face à la liberté individuelle. Pourtant, il me semble que les mystiques ont justement cette soif d'échapper au système religieux notamment.
Oui, bien sûr, mais bon, là, c'est toujours très risible parce que... Il y a toujours les rebelles de pacotille, hein, et généralement, les mystiques, c'est des rebelles de pacotille.
Hein. Mmh. Pourquoi ?
C'est des gens qui ont vu le problème, généralement, ou qui l'ont entreaperçu, ou qui ont commencé à le voir, disons. Hein.
Ouais.
Le problème d'un système, le problème d'une soumission générale à des vérités... Mmh.
De brider sa puissance.
Voilà, et bon, ils vont s'armer comme des jeunes adolescents ou des adolescents, s'armer de leur courage et de quelques lectures qu'ils ont puisées ici et là, ou de quelques bonnes volontés, et ils vont aller en guerre contre ce démon du collectivisme, de l'organisation d'un système dans lequel on voudrait inclure un homme. Et puis tu les retrouves 10 ans après, c'est des bobos, quoi, des vieux bourgeois qui se sont pliés finalement, bon gré mal gré, parce qu'ils ont commencé à bâtir une tour, et puis arrivé à la moitié de la tour, ils n'avaient plus les moyens. Ils ont commencé à se lancer dans une guerre, et en face, ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à un ennemi puissant, ils ont fait dans leur froc, tout simplement. Il y en a plein de mystiques comme ça. Donc, quand ils s'en rendent compte, ils abandonnent pas toujours leur discours mystique pour aller dans le monde de la bourgeoisie et revenir dans un système, hein, ouais. Un peu la queue entre les jambes. Il y en a qui continuent à rester mystiques parce qu'ils veulent pas s'avouer que, qu'ils avaient pas finalement les intestins pour continuer. Alors, ils vont persévérer dans un mysticisme de pacotille qui vont tordre dans tous les sens et qui est finalement une rationalité déguisée. En spiritualité magique, mais...
Libre. Et peut-être que dans le mysticisme, il y a aussi des systèmes.
Oui, c'est ce
que... Et qu'on tombe dans d'autres systèmes qui sont cachés, qui sont occultes, évidemment, mais qui n'en demeurent pas moins des systèmes.
Oui, et encore plus, je dirais, le mystique, il ne veut pas revenir en arrière et s'avouer vaincu. Hein, devant c'est la parabole, hein, tu vas en guerre, bon, bah, si tu vois que tu ne tiens pas, tu vas faire la paix. C'est-à-dire que tu reviens en arrière. Hein. Celui qui ne veut pas le faire, comme tu dis, le mystique, qui va construire un système caché derrière sa panoplie mystique, ce système sera encore plus, je dirais...
Contraignant.
Bah, il sera plus violent pour l'homme, parce que justement, il aura puisé dans quelque chose de magique, quelque chose qui est, au départ, assez vrai. C'est-à-dire, c'est comme un adolescent qui va garder la puissance de départ qu'il avait, son désir de liberté, son désir
de vérité
révolutionnaire, de dépasser ses aînés, et puis qui finalement va se plier sans se l'avouer, eh bien, il va construire un système encore plus dur. Bah, c'est ce qu'on voit très bien dans...
Dans les grandes révolutions.
Les révolutionnaires qui ont plié bagage et qui deviennent 20 ou 30 ans après... pire que les autres. On pourrait prendre l'image du fumeur et du non-fumeur. Il vaut mieux un non-fumeur qu'un ancien fumeur qui est devenu non-fumeur. Généralement, ils sont pires. Donc là, c'est un peu le même principe. On a affaire à des gens qui ont raté leur révolution, qui n'arrivent pas à s'avouer à eux-mêmes. Et donc, ils vont essayer de construire quelque chose quand même sur des ruines et qui va être encore pire parce que ça va être plein d'hypocrisie. Il vaut mieux finalement un non-révolutionnaire de départ qui va affirmer finalement sa volonté d'obéir à un système dès le départ.
Oui. Et de respecter l'ordre établi.
Oui, il est honnête avec lui-même. Voilà. Donc les mystiques...
D'accord. Donc ils sont dans le même sac. Alors, si l'enfer, c'est la conscience, cela veut-il dire que nous pouvons d'ores et déjà connaître l'enfer ici-bas?
Alors l'autre jour, je lisais quelques aphorismes d'Émile Cioran. Il y a apprendre à laisser hein, chez lui, bien sûr. Mais il y a ce tout petit texte dans lequel il dit la chose suivante. Si on parvenait à être conscient des organes, de tous les organes, de son corps, hein, il parle, on aurait une expérience et une vision absolue de son propre corps, lequel serait si présent à la conscience qu'il ne pourrait plus exécuter les obligations auxquelles il est astreint. Il deviendrait lui-même conscient et cesserait ainsi de jouer son rôle de corps.
Mmh. Donc c'est l'ultra-conscience.
Oui, mais c'est ce que veut la raison, finalement. Elle veut tout connaître, elle veut être omnisciente. Elle veut retourner à ses fondements d'origine. Elle aime exister, la raison, mais à partir du moment où elle existe, alors qu'elle est incarnée dans un corps, elle est obligée de faire abstraction de certaines choses pour faire confiance à son corps. Et ça, elle le refuse, elle veut l'omniscience, elle veut que tout soit transparent, donc elle veut des corps transparents, donc des corps qui ne sont pas des corps, qui ne fonctionnent pas, et c'est horrible. Je crois que c'est Maurice Blanchot qui disait « Si tout le monde pouvait comprendre les choses comme je les comprends, tout le monde comprendrait que je suis en enfer. » Il disait quelque chose comme ça. Bon, peut-être que c'était un super doué, un homme encore avec un QI exceptionnel, et qui était incapable de supporter la connaissance qu'il avait des choses qui peut-être pour lui étaient proches de l'omniscience. Mais être omniscient, c'est être monstrueux. Et donc la conscience, c'est une volonté d'omniscience. C'est une volonté d'avoir la science de tout, avec tout le monde et avec tout l'environnement qui l'entoure. Il faut que la conscience soit brisée et qu'elle se métamorphose. Il faut qu'elle se transforme.
Donc on peut connaître l'enfer ici-bas à cause de la conscience.
La conscience, c'est l'enfer.
D'accord.
C'est l'enfer, parce que la conscience, elle est sauvée parce qu'elle a un corps. C'est-à-dire qu'elle, grâce à notre corps, il y a des choses qui nous sont voilées. Inconscientes, voilées, et qui nous obligent à rentrer dans la dimension divine qui s'appelle la dimension de la confiance. Pas de la conscience, de la confiance, avec un F. C'est-à-dire la dimension de la foi. Et si on veut utiliser un langage un peu plus rose, c'est le langage de l'amour. Hein. Avoir confiance à quelqu'un, c'est l'aimer et être aimé de lui. Hein. C'est basculer dans quelque chose d'autre que la conscience. C'est-à-dire que tu ne sais pas, tu n'as pas la preuve, par la conscience translucide,
rationnelle,
pure, par une vérité prouvée, expérimentée, que tu peux faire confiance à l'autre. Mais tu fais quand même confiance, tu sautes. Comme, comme le gosse qui saute dans les bras de son père. Quand son père lui dit « saute », son père lui dit « saute », et il va le faire, il va sauter, alors qu'il n'a pas calculé. Mm. Hein, mais il fait confiance. Il sait que son père l'aime. Bon. C'est la dimension de Dieu, cette relation de confiance. Hein. Ce n'est pas une relation de dominé à dominant. Hein. Ça ne veut pas dire que... Là, j'ai pris l'image d'un père et d'un fils, mais entre deux adultes, une relation de confiance, ça veut dire que tu acceptes que l'autre ne se dénude pas et tu le crois. Tu le crois parce qu'il y a de l'amour, quoi. Hein. Tu as quitté le monde de la conscience. C'est autre chose qui te dirige et la conscience, elle est dans un monde extérieur. Elle va servir en tant que rationalité, elle va servir de serviteur ingrat pour organiser le réel à l'extérieur de ce que tu veux, toi, et cette volonté que tu demandes à ton prochain de recevoir dans un acte de confiance.
Comment peut-on échapper à l'enfer après la mort ?
En brisant sa conscience. C'est-à-dire qu'il faut que sa conscience soit brisée. C'est-à-dire qu'il faut que la conscience soit tuée. Il faut mourir. Il faut accepter de rentrer dans le noir. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'enfer, c'est la lumière. L'enfer, c'est rentrer dans le monde de la conscience, de la toute lumière. C'est-à-dire que tu as quitté ton corps. Et effectivement, à partir du moment où tu as quitté ton corps, il n'y a plus rien qui est capable de voiler ta vie. Mmh. Tu as un dévoilement absolu de ta vie. Et les autres consciences qui sont à proximité ont elles-mêmes une absolue conscience de ta conscience, de ta vie. Tout est nu et dévoilé.
Comme sous un néon.
C'est la parole de l'évangile. Hein. Tout sera nu et découvert et tout sera dit à pleine voix sur les toits, hein, là-bas. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que tout est mis dans la lumière. Et c'est pas mis dans la lumière parce qu'on veut humilier les gens. C'est parce que les gens, ils n'ont pas accepté de rentrer dans une relation avec la vie, qui soit une relation de confiance avec l'autre. Ils veulent garder leur conscience, ils veulent garder des preuves. Ils ont peur. Et comme ils ont peur de leur liberté et de sauter dans le vide... Ils ont besoin de vivre dans une vie qui soit organisée selon des preuves dont ils ont conscience, qui les rassurent, sur lesquelles ils puissent s'appuyer. Et ils n'ont jamais accepté d'être brisés, donc ils ont organisé leur vie comme ça. Hein. Alors, tant qu'ils avaient un corps, ça passait, parce qu'il y a des choses qui étaient encore inconscientes dans leur vie, et il y avait encore cette relation avec la vie qui gardait un mystère, etc. Bon. Et puis, une fois que tout est dénudé là-bas, ils se retrouvent face à leur conscience, et là, il y a tous les détails. C'est-à-dire l'inconscient, le surmoi, le subconscient, enfin, tout le problème de la psychologie. Hein,
toutes les couches voilà. De l'être invisible.
Sont mises à nu, et c'est horrible. Parce que tu te rends compte de tes intentions, de tes pourquoi, de tes comment, de tes traumatismes. Et puis tu te rends compte aussi que tu ne seras pas récompensé. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des bonnes intentions. Donc, tu peux pas être puni pour tes crimes et tu peux pas être récompensé pour tes œuvres. Mmh. Et en plus, tu es nu aux yeux de tous et tous les autres sont nus aux yeux à tes propres yeux. Et tu sais que tu vis dans une espèce de salle de bain avec un éclairage blanc où tout le monde est nu et tout le monde se découvre les uns les autres et en boucle. C'est horrible. C'est horrible. C'est rentrer dans un espèce d'hôpital psychiatrique. Je sais pas comment une conscience peut supporter ça. Je sais pas comment on peut supporter ça. Pendant des années sans devenir fou. Il faut d'ailleurs être rentré dans la dépression, c'est-à-dire avoir à un moment donné découvert de quoi on est capable, c'est-à-dire découvert son propre enfer, et puis vivre cette tristesse hein, qui est déprimante, pour peut-être se rendre compte de ce que peut être la mise à nu de soi-même. Hein. Je voyais l'autre jour sur un plateau télé un journaliste qui parlait d'un événement criminel qui s'était passé ces derniers temps, un procès judiciaire à propos d'un gosse qui avait été tué par des adultes. Et le gars, le journaliste, enfin, non, je crois que c'était pas un journaliste, c'était un député ou je ne sais quoi, enfin, bon, un vertueux, un honnête homme, tu vois, les honnêtes hommes. Et ben, on avait l'impression d'entendre les procès après la Seconde Guerre mondiale, ou les procès après le stalinisme. Le gars, il disait, oui, c'est monstre. Pourtant, on est de la même humanité, mais là, on comprend pas, c'est quand même pas la même humanité. C'est-à-dire que le gars, il croit qu'il n'est pas capable d'en arriver à l'extrémité dans laquelle sont arrivés ces adultes à tuer un enfant.
Ouais.
Lui, il croit qu'il est d'une autre humanité.
Oui, il est persuadé de ne pas être de la même nature.
De la même souche de conscience. Et c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. C'est-à-dire qu'il n'a pas un jour vu qui il était, cet homme. Et quand il va mourir, il va le voir. Et il va voir qu'en fait, il n'est pas différent de...
De ces monstres.
Et qu'il est lui-même un monstre. C'est simplement que le temps et les circonstances ne lui ont pas donné l'opportunité de se dévoiler tel quel. Alors, quand on a eu cette chance d'avoir été poussé au bord du précipice, où on a compris qui on était, de quoi on était capable, du pire et du meilleur, eh bien, on a été poussé à la repentance, on a été poussé à changer d'état d'esprit par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'humanité, etc., et à chercher une autre issue, une autre sortie de secours, une autre solution que la solution de la bonne humanité et de la mauvaise humanité monstrueuse. Hein. Mm-hmm. C'est l'histoire de la bonne vieille histoire de la banalité du mal qu'avait révélé Hannah Arendt avec le procès d'Eichmann. Cet ancien nazi, on avait découvert tout d'un coup que c'était pas un monstre, qu'il avait juste obéi. Généralement, c'est ça. Eh bien, ceux qui sont poussés à découvrir ici-bas, dans un moment de dépression, de tristesse profonde, c'est-à-dire pas un caprice, hein, un vis-à-vis avec leur propre conscience, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la croix. Ils veulent que leur conscience soit crucifiée et ils veulent renaître à une autre nature. Pas une autre nature monstrueuse, mais une nature de cet homme qui puisse évoluer en fils de l'homme, qui puisse naître...
Donc c'est plus un espoir.
À une autre humanité. Oui, c'est...
C'est une espérance.
C'est une espérance. C'est une espérance, et là, tu bascules dans un moment de foi, c'est-à-dire que tu dis à Dieu, tu vas le faire. Tu vas m'aimer et tu vas le faire. Me donne pas de preuves. J'ai justement pas besoin de preuves. Je veux plus de la conscience. Je veux rentrer dans une autre dimension de l'être. Une dimension où c'est la confiance qui règne.
Et donc, c'est par cette voie-là que on pourrait échapper à l'enfer.
Oui. En brisant ce morceau de verre qui est notre conscience, qui est un moment de maturité, un moment évolutif, parce qu'effectivement, il vaut mieux être une conscience qui a conscience de ses droits, de ses devoirs, du bien, du mal, qu'un animal qui n'est que motivé par ses instincts.
Hein.
Mais c'est le moment intermédiaire, la conscience, c'est un moment de verre, c'est l'instinct qui s'est métamorphosé en conscience, quelque chose de brillant, lumineux évidemment, de supérieur, et que Dieu veut amener et dire maintenant je vais te briser, et de ça va sortir quelque chose d'ailé, quelque chose qui a des ailes, qui va s'épanouir dans sa liberté de fils de l'homme, et qui va rencontrer l'autre dans un moment de confiance, d'amour, de foi, et non plus de preuves.
Donc tu parles pas ici, tu parles pas du tout d'une psychanalyse. Tu parles plutôt d'un chemin, tu parles d'une prise de conscience de la déchéance définitive de la nature humaine et d'un élan de confiance vers un changement de nature à la résurrection, c'est ça ?
À peu près ça, oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas vraiment que la nature humaine est déchue, c'est plutôt... qu'elle est arrivée, quand elle est dans son phénomène de conscience, de supériorité en termes de nature, ici-bas, qu'elle n'est pas arrivée à son terme. Elle a besoin de naître définitivement à ce vers quoi elle va, à
D'accord.
une nature de fils de l'homme.
Oui.
La nature de l'homme n'est pas déchue. Elle est déchue à partir du moment où elle rate cette naissance.
D'accord, c'est elle est incomplète en fait.
Voilà. Et donc, elle va déchoir... Si effectivement elle reste une conscience, c'est-à-dire que si elle va dans la mort, et qu'elle reste une conscience dans la mort, là, elle est déchue et elle vient en enfer.
D'accord.
Parce qu'elle est face à elle-même. Hein. Et là, elle a raté, elle est un espèce d'avorton, elle a raté sa naissance. Hein. Et là, on peut parler d'humanité déchue. Et c'est ça l'enfer. Alors, est-ce qu'il est possible à une conscience de tenir sans devenir folle dans cet état-là? Je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Après, c'est le mystère. Hein. Mm. Pour moi, d'un point de vue ecclésiastique, c'est-à-dire d'un point de vue par lequel on formule un christianisme existentiel et non pas un christianisme du bien et du mal, des vertueux et des criminels, on définit l'enfer comme ça. Mais ensuite, est-ce que l'enfer est éternel? Moi, ça me semble difficile à tenir ensuite,
oui.
De voir une conscience rester telle qu'elle est, comme ça, en vivant face à elle-même, en tournant sans arrêt le film de sa vie comme un feu qui ne s'éteint point, hein, comme un verre qui te ronge, effectivement, mmh. en sachant qu'en plus, il y a une espèce de télépathie entre les consciences. Il me semble difficile de tenir que cette punition puisse durer éternellement. La conscience, elle se brise, effectivement, elle se brise. Alors, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle peut être rachetée? Est-ce qu'elle peut vraiment se briser, puis retrouver, en fait, une entrée vers le monde des fils de Dieu, des fils de l'homme? Ou est-ce qu'elle va tellement s'affiner, je dirais, en tant que conscience pure, mm-hmm. et définitivement perdre son humanité pour devenir une personnalité angélique, c'est-à-dire une espèce de robot,
voilà.
parce qu'un ange, c'est un robot, et ne plus être un homme, je ne sais pas, ou définitivement s'effriter, et puis vivre dans une espèce de dimension démoniaque, ou rentrer vraiment dans de la folie pure, quoi. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je veux pas. Je veux que Dieu transforme mon être en esprit et me fasse rentrer dans les portes de la vie spirituelle où je viens un esprit corporé, mmh. un esprit qui a un corps, et puis laisser derrière ce stade de la conscience en ne gardant que ce qui est bon, en anoblissant ma conscience, c'est-à-dire en faisant un esprit qui est corporé. Oui, ça, ce que je sais, c'est que je voudrais que le Christ me ressuscite et recevoir son sceau. Après, je ne vais pas défendre un enfer éternel, tout ça. Je vais dire, écoute...
On ne sait pas.
On ne sait pas, mais en tous les cas, même 2 jours là-bas dedans, je ne veux pas y rester.
Même une seconde.
Ouais, parce que c'est... Même une seconde, ça, c'est horrible, parce que tu connais la vérité et c'est horrible.
Ouais.
C'est horrible. Moi, je veux être la vérité, et c'est ça, être un esprit corporel.